continent. Avec Elgas.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans votre magazine du samedi sur RFI. Avec toujours le souci de traverser les siècles et d'aller à la rencontre de l'histoire très ancienne mais aussi contemporaine du continent. Le souci également d'éclairer le présent en explorant le passé, de vous raconter donc l'Afrique par elle-même et bien sûr dans les courants du monde. Comment être une femme noire, sénatrice de l'Union française et pourtant porter le combat pour le droit des femmes et contre la colonisation dans un contexte si hostile? Comment toujours concilier les identités multiples, africaines et occidentales, dans une période de domination raciale et de mépris pour les Noirs? Comment se reconnecter avec le continent mère quand on est une femme noire née aux États-Unis? Comment, dans cet univers d'époque masculin et discriminant, poser les bases d'un transnationalisme noir et féministe? Ces questions recoupent respectivement les destins exceptionnels de deux femmes, Jeanne Vial et Eslanda Robson. Leurs histoires sont racontées dans un livre récent publié aux éditions Rodebeau Creek avec ce joli titre « Imaginez la libération » et ce sous-titre « Des femmes noires face à l'Empire ». Leur portrait côtoie d'autres figures majeures comme ceux de Paulette Nardal, Awa Keïta, Suzanne Césaire entre autres. Mais c'est bien de Jeanne Vial et d'Eslanda Robson dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de celle qui le redonne voix au chapitre et autrice du livre, Annette Joseph Gabriel. Annette Joseph Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour venir à nous ici à Issy-les-Moulineaux. Je rappelle que vous êtes universitaire ghanéenne. Vous enseignez la littérature antillaise à l'université de Duke, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Avant d'évoquer leurs histoires, celles de Jeanne Vial et d'Eslanda Robson, quel est l'état général des connaissances sur les figures de ces femmes noires au XXe siècle? Votre livre, à ce titre, il comble un manque ou il satisfait une demande?
Je vais dire les deux, en fait. Justement, je pense qu'au niveau des connaissances de ces femmes, ça se fait petit à petit. On voit de plus en plus des paroles, des discours dans la politique, dans le milieu public, dans le milieu universitaire, qui reconnaissent, par exemple, le travail de Paulette Nardal, de la Martinique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui se fait petit à petit, mais il y a quand même cette lacune qu'il faut combler.
Bah justement, on va essayer de combler ces lacunes-là. On va d'ailleurs commencer par Jeanne Vial, à qui vous consacrez de très belles pages, une trajectoire qui est singulière, qui va la mener au Conseil de la République. Aujourd'hui, on dirait le Sénat. Une vie aussi rompue à la clandestinité, on y reviendra parce que c'était un personnage assez fascinant. Mais faisons d'abord un point biographique. Dans quelle famille elle naît et quel est son parcours?
Jeanne Vial a un parcours assez singulier. Elle est née à Ouesso, donc dans l'actuelle République du Congo, le 27 août 1906. Son père est français, sa mère est africaine. Donc du coup, on va déjà voir cette identité métisse qui sera très importante pour elle. Alors son père l'emmène en France à l'âge de 7 ans et elle sera scolarisée à Paris. Et à partir de là, quand elle va grandir, elle va travailler d'abord en tant que journaliste et plus tard, elle sera aussi impliquée dans la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comme j'ai dit, un parcours assez singulier, mais une vie très intéressante.
Une vie intéressante qui va connaître un peu son apogée quand elle entre justement au Conseil de la République, le Sénat. Elle est sénatrice de Lubangui-Chari, actuelle Centrafrique, et elle sera une très proche de Gaston Monnerville, président de cette chambre. On est pendant la 4e République en France. Comment se retrouve-t-elle dans cette institution et quel était le contexte d'alors?
Alors, c'est vraiment extraordinaire, en fait, de retrouver une femme noire, une Africaine au Sénat. Mais en fait, elle arrive là et c'est un parcours vraiment particulier. En 1946, en fait, Jeanne Vial fonde son propre parti politique qui s'appelle l'Association pour l'évolution de l'Afrique noire. À travers son travail dans ce parti politique, elle sera élue au Sénat où elle va travailler de manière très, très proche avec une autre femme noire, Eugénie Ebouetel, ainsi que d'autres sénateurs.
Alors, on rappelle que c'est la femme de Félix Eboué, donc un homme politique remarquable de l'époque, résistant, gaulliste, et qui a eu de très, très grandes fonctions au sein de l'administration coloniale, on peut le dire ainsi.
Oui, exactement. Et elles avaient deux visions politiques assez différentes. Et pourtant, elles avaient en commun vraiment ce désir de proposer des lois et d'œuvrer pour la cause des femmes et des enfants qui se trouvaient dans les territoires d'outre-mer.
Mais quels sont les combats qu'elle va mener au sein de ces sénats? Parce que c'est quand même l'Union française, on peut même dire l'Empire colonial. Comment mener des combats pour l'égalité quand on est une femme noire dans une institution comme ça? N'y a-t-il pas des contradictions?
Absolument. Il y a vraiment des contradictions entre les idées un peu égalitaires, on va dire, de la République française et la réalité d'être une femme noire dans un pays qui pouvait être raciste aussi. Il s'agit quand même de la période coloniale et le colonialisme est fondé sur le racisme. Et donc, il y a cette contradiction, mais pour Jeanne Viale, en fait, c'est quelque chose à dépasser à travers les lois. Donc, elle va par exemple proposer des lois pour augmenter le soutien de l'État pour les étudiants de l'outre-mer qui se trouvent en France, qui venaient étudier en France, l'augmentation des bourses par exemple. Tout ça pour vraiment avoir cette égalité dans l'expérience de l'étudiant, peu importe d'où il vient en fait. Donc l'étudiant de l'Afrique, l'étudiant des Antilles, l'étudiant de la France métropolitaine, pour vraiment avoir cette expérience égale.
Afrique. Mémoire d'un continent.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit aujourd'hui Annette Joseph-Gabriel pour parler des destins incroyables de deux femmes, Jeanne Viale et Eslanda Robson, pionnières du combat pour le droit des femmes et contre la colonisation, entre autres engagements. Jeanne Viale, Annette Gabriel, Joseph-Gabriel, va fonder l'association, vous l'avez mentionné, pour l'évolution de l'Afrique noire, l'APEAN. Promotion des cultures à travers plusieurs manifestations. Je vous propose d'écouter un extrait, une archive.
Ces attractions seront surtout africaines, puisque nous avons le concours du danseur Feral Binga, le concours des SICO, qui sont composés d'une troupe de jeunes étudiants venant de toutes les contrées de l'AOF. Nous aurons aussi le conteur et poète mandingue Keïta Fodeba, et tout le programme sera présenté par Madame Jenny Alpha, qui est antillaise, ce qui forme toute l'Union française.
Cette archive, elle date de 1949, et on y voit Jeanne Viale évoquer des figures connues, comme justement Feral Binga, qui est danseur et chorégraphe d'origine sénégalaise vivant à Paris, qui a eu une grande gloire à l'époque. Quel a été le lien de Jeanne Viale avec l'Afrique, sa terre de naissance, et cette association, elle a eu quoi comme héritage?
Alors, pour Jeanne Viale, il s'agit vraiment de la valorisation de la culture africaine, ce qui peut paraître peut-être un peu banal aujourd'hui, mais il faut savoir que durant la période de la colonisation est comme je dis, fondée sur le racisme, sur l'effacement de la culture africaine, parce que ça vise vraiment l'assimilation. Et donc pour Jeanne Viale, la présence de ce personnage africain de partout en fait, de territoire d'outre-mer en France, pour partager la richesse de leur culture, est aussi une façon de refuser en fait les bases de la pensée coloniale.
Oui. Parlons d'un aspect qui est à la fois drôle et très très intéressant dans sa trajectoire, c'est qu'elle était rompue aux méthodes de la clandestinité. C'est qu'elle avait beaucoup de pseudos, elle était même rompue aux méthodes des renseignements généraux, si on peut dire. Elle avait utilisé beaucoup d'identités. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur ce qu'elle risquait? Pourquoi elle s'est autant camouflée? Que voulait-elle préserver?
C'est peut-être contradictoire de parler du camouflage et du silence, mais pour Jeanne Viale, ça a été vraiment une stratégie durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque, comme vous avez évoqué, en fait, elle a travaillé dans la clandestinité en tant qu'agent de liaison pour Jean Gemaling, qui, lui, était coordinateur des services de renseignement du réseau Combat. Donc, Combat était l'un des trois grands mouvements de la résistance qui se trouvait dans le sud de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce rôle, en fait, Jeanne Viale traitait des informations, des renseignements obtenus par les espions pour la résistance. Donc, elle cryptait en fait les horaires des trains, les déplacements des militaires. Et c'est à travers le camouflage et l'usage des pseudonymes comme El Bidaoui. Jeanne Viale pouvait être n'importe qui à n'importe quel moment. Et c'est à travers ce camouflage et ce silence qu'elle a pu vraiment œuvrer en fait pour la résistance durant la Deuxième Guerre mondiale.
Et puis d'ailleurs, une contradiction va hanter la vie de Jeanne Viale. Vous l'avez évoqué en parlant de contradiction forcément nécessaire quand on sert l'empire colonial tout en menant des combats contre la colonisation. La domination coloniale, en l'occurrence celle de l'Union française, elle va être justement le théâtre dans lequel elle va exprimer ses idées. Comment mener ainsi un combat radical et crédible contre l'institution qu'on sert ? Un questionnement qui va être central. Et dans votre livre, on sent une vraie adhésion chez elle, pourtant, à ce projet d'ensemble. Même si elle critique la colonisation, elle ne remet pas en cause les structures de l'Union française. Comment, dans ce contexte, sa critique va-t-elle porter ?
Alors, pour Jeanne Viale, elle va choisir vraiment de mettre en face de la France, ou mettre la France en face de sa dette qu'elle avait envers les colonies. Donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque Jeanne Viale elle-même a été arrêtée, internée dans un camp de concentration, emprisonnée pour son travail dans la résistance, elle va... En tant que sénatrice, elle va souvent évoquer la dette que la France avait envers les gens des colonies, en fait, qui se sont combattus durant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à travers cette dette qu'elle va vraiment plaidoyer pour la cause des colonies.
Mais quand on vous lit, on sent quand même une aventure assez solitaire. Par moment, on a évoqué la figure d'Eugénie Tell, d'Eugénie Éboué-Tell, qui était aussi au Conseil de la République, dans ce Sénat-là. Est-ce qu'elle avait d'autres camarades? Est-ce qu'elle avait d'autres amis? Est-ce qu'elle avait des soutiens, peut-être même des soutiens masculins? Est-ce que ce combat, elle l'a fait accompagner justement de voix qui l'ont soutenue jusqu'au bout?
Absolument. Et elle va trouver cette communauté, en fait, au sein de l'association qu'elle a fondée, l'Association des femmes de l'Union française. Donc, Jeanne Viale ne travaille jamais en isolation. En fait, ce n'est pas la figure singulière, mais c'est quelqu'un qui croyait vraiment dans la solidarité et dans un réseau féminin ou presque féministe. Et donc, dans cette association, elle fait appel à l'adhérence des femmes de partout, en fait, dans l'Union française. De l'Afrique, des Antilles, de l'Indochine. Donc, elle imagine vraiment un monde beaucoup plus large que ce que suggèrent les frontières nationales. Et pour elle, c'est vraiment à travers la solidarité qu'on va mener cette lutte.
Justement, le féminisme est au cœur de sa trajectoire. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est opportun de parler aujourd'hui de féminisme. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme, c'est-à-dire utiliser un terme qui n'avait pas forcément la même signification à l'époque? Est-ce qu'on peut dire que Jeanne Viale, dans les années 1940-50, c'était une féministe?
Je pense qu'on peut le dire, absolument. Parce que, alors, c'est vrai que le mot n'avait pas le même sens ou la même définition que ce qu'il a aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut savoir quand même que Jeanne Viale, elle mettait en avant la cause des femmes. Et elle ne voyait pas les femmes uniquement comme les démunies ou comme des victimes, mais aussi comme des agents de libération. Et donc, je pense que ça, c'est quand même une vision féministe qu'on retrouve non seulement dans ses écrits, mais aussi dans son travail politique. De mettre d'abord toujours les femmes pour travailler vers l'égalité des femmes.
Le destin de Jeanne Viale se conjugue avec le combat pour le droit des femmes. Elle sera à l'initiative de plusieurs lois à leur service dans les colonies. Bataille pour la reconnaissance des enfants métis, par exemple, refonte de la famille coloniale. Elle s'engage résolument aussi pour l'éducation. Je vous propose d'écouter cet extrait où elle est interviewée en compagnie de Léopold Sédar Senghor.
On a coutume de dire que les besoins des territoires d'outre-mer se ramènent à trois points. Il s'agit de vaincre la misère, il s'agit de vaincre la maladie et il s'agit de vaincre l'ignorance. Je pense que la radio est un instrument pour lutter contre ces trois maux.
Contre la misère, on s'en serait aperçu déjà.
Même contre la misère, car la misère provient de l'ignorance. Et c'est une question d'éducation qui se pose ici.
Oui, vous voyez donc dans l'éducation, évidemment, au sens le plus large du terme, le premier devoir ou la première utilité de la radio outre-mer. Mais ce mot d'éducation est en lui-même extrêmement vaste et je pense que la discussion qui va suivre va amener à le préciser. Madame Jeanne Viale.
Oui, je pense aussi que la radio peut rendre de grands services dans le domaine éducatif. Donc, on vaincrait l'ignorance en disant et en éduquant les foules, les masses, et je pense tout particulièrement aux femmes qui sont, elles, des propagatrices de la culture.
cette archive, elle est inédite, elle rassemble justement Léopold Sédar Senghor, dont on connaît le destin, et Jeanne Vial, qui évoque ici son combat pour l'éducation à travers, certes, le canal de la radio, mais surtout au sein d'une association qui va être importante pour elle, c'est l'Association des femmes de l'Union française, l'AFUF. Qu'est-ce qu'a représenté cette association, Annette Joseph Gabriel?
Cette association, pour Jeanne Vial, c'était vraiment le rassemblement des femmes de l'Union française pour vraiment avancer pour mettre l'accent sur leur importance dans le monde qui était à refaire. Donc vraiment, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait carrément reconstruire non seulement l'Europe, mais aussi l'Afrique qui a été impliquée dans cette guerre. Et donc, pour Jeanne Vial, c'est aussi les femmes qui vont faire ce travail. Pour elle, elle parle dans cet extrait de l'importance de l'éducation. Ailleurs, elle a écrit en fait que ce sont les femmes qui sont responsables de l'éducation, parce que c'est à travers elles que se fait la transmission de la culture africaine. Donc elle voyait vraiment les femmes comme des agents centraux dans ce travail à faire.
Et comment la connexion va-t-elle se faire avec justement le continent africain, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, l'AOF? Est-ce qu'il y a eu des répercussions, est-ce qu'il y a eu des formes d'héritage, d'une certaine manière, de l'AFUF dans ces territoires africains?
Je pense qu'on peut voir l'héritage de la vision de l'AFUF dans un projet comme, par exemple, la revue AWA, la revue de la femme noire, qui apparaît quelques décennies plus tard, aux années 60 et 70, qui est aussi ce rassemblement, en fait, de voix féminines d'un peu partout sur le continent africain et aussi dans le monde, en fait. Donc, je pense que cette vision de ne pas travailler en isolation, mais de toujours travailler en réseau avec d'autres femmes et vraiment de faire avancer la voix de la femme, c'est quelque chose qu'on voit plus tard dans les revues féminines qui vont suivre.
Oui, on a évoqué justement le fait qu'elle soit née dans une famille, qu'elle soit métisse d'une certaine manière. Elle est née au Congo. Est-ce qu'elle va effectuer plusieurs voyages sur le continent, par exemple, repartir au Congo, République du Congo par exemple? Est-ce que justement on a des traces de ces séjours-là sur le continent?
Alors, il nous reste très peu de traces dans les archives, mais elle-même, elle raconte le voyage qu'elle a fait, en fait. Donc, Jeanne Vial, c'est quelqu'un qui a voyagé un peu partout dans le monde pour parler de l'AFUF. Mais en Afrique, elle dit, par exemple, qu'elle a fait un trajet de 9000 kilomètres au moment où elle a fondé l'APEAN, justement pour parler de sa vision de l'évolution de l'Africain à cette époque. Donc, 9000 kilomètres à cette époque-là,
dans l'association les conditions pour l'évolution de l'Afrique noire, donc l'APEAN.
Exactement, oui.
Et est-ce qu'aujourd'hui, l'état des travaux sur son héritage, sur ce qu'elle a pu laisser, est quelque chose dont on peut sentir encore la vitalité? Est-ce qu'il y a, à part vous, qui lui consacrez justement ce portrait très très long et très fouillé, il y a un héritage qui intéresse à la fois dans les universités, mais aussi dans les associations féministes?
Alors, il y a un peu d'héritage quand même aujourd'hui. Il y a des chercheurs, des universitaires qui s'intéressent toujours à Jeanne Vial et à son exemple. Mais il faut aussi avouer qu'il y a très peu de travail, en fait, qui se fait sur elle aujourd'hui. Et je pense que c'est en partie, d'abord à cause de l'invisibilisation des femmes noires, mais aussi parce que Jeanne Vial est morte très tôt, en fait, dans un accident d'avion. Et donc, il y a cette coupure, cette rupture, en fait. Et voilà, ça fait en sorte qu'on ne parle pas beaucoup d'elle aujourd'hui.
Jeanne Vial symbolise la naissance de toute une école de combat, consciente des forces en présence, mais qui n'a jamais abdiqué à défendre l'essentiel de la dignité humaine et le droit des femmes. À côté d'elle, beaucoup d'autres figures importantes vont théoriser la pensée et l'action pour un combat féministe noir, transnational, c'est-à-dire qui enjambe toutes les frontières, en ne laissant plus le monopole et le privilège aux hommes. C'est le cas, par exemple, d'Eslanda Robson. Nous en parlons juste après le journal.
Afrique, mémoire d'un continent. Avec Elgas.
De retour dans Afrique Mémoire d'un continent et toujours en compagnie d'Annette Joseph-Gabriel, universitaire ghanéenne, autrice du livre « Imaginez la libération, les femmes noires face à l'Empire » aux éditions Rodebeau-Cric. Nous retroissons avec elle les destins de Jeanne Vial et d'Eslanda Robson. Et justement, on va s'arrêter justement sur cette deuxième figure, Eslanda Robson. Annette Joseph-Gabriel, on l'a vu avec Jeanne Vial, qui est, elle, née en Afrique. Eslanda Robson, quant à elle, elle est américaine. Dans quelle famille voit-elle le jour et quelle est sa formation?
Alors, Eslanda Robson, elle est née à Washington, D.C. le 15 décembre 1895. Sa formation, elle a une formation en anthropologie. C'est une formation qui va vraiment déterminer son rapport avec le continent africain. Mais elle est aussi actrice militante dans le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Elle va entreprendre deux voyages en Afrique en 1936 et encore en 1946. Et c'est donc une femme qui va laisser, contrairement à quelqu'un comme Jeanne Vial, c'est une femme qui a laissé beaucoup d'écrits, donc à la fois des textes publiés, mais aussi des textes inédits qui doivent être publiés, à mon avis.
Textes sur lesquels on va revenir, mais restons sur une scène que vous évoquez en ouverture de son portrait dans votre livre. C'est une scène, la scène de la poste, qui est une scène très très riche parce qu'elle montre à la fois les questions justement de domination raciale, des discriminations, et même ce qui deviendra aux États-Unis la ségrégation. Pouvez-vous nous la raconter d'abord, cette scène de la poste, et quelle est son incidence et l'incidence de la question raciale dans la trajectoire d'Eslanda Robson?
Alors, c'est une scène qui a lieu à la poste que Eslanda Robson raconte dans un texte toujours qui reste inédit. Mais en fait, durant son deuxième voyage en Afrique équatoriale française, en fait, elle se retrouve au bureau de la poste à Kinshasa, à l'époque Léopoldville. Et elle explique que, en fait, pour arriver au guichet, il fallait choisir sa place dans une de deux queues. Il y avait deux queues à la poste, une pour les Blancs, qui étaient toujours servis d'abord, et une deuxième queue pour les Africains, et les deux étaient séparés en fait par une sorte de palissade de bois. Donc quand on pense à la ségrégation comme non seulement l'histoire des États-Unis, mais quelque chose qui était aussi la réalité dans les colonies en Afrique, on voit vraiment cette ségrégation de manière spatiale dans la séparation de l'espace du bureau de la poste. Alors Eslanda Robson arrive là, elle voit ces deux queues, blancs et africains. En tant qu'Africaine-Américaine, qui n'est ni africaine ni blanche, Eslanda Robson va prendre sa place, elle va choisir en fait de se mettre dans la queue pour les Blancs. En arrivant au guichet, elle essaie de se mettre en retrait pour faire passer d'abord l'homme africain qui était dans la queue pour les Africains. Mais l'homme qui travaille derrière le guichet a refusé, en fait, et il a pris d'abord le télégramme d'Eslanda Robson. Donc là, elle a essayé, en fait, d'interrompre un peu, de perturber ou de troubler, en fait, cette ségrégation. D'abord, en tant que femme noire, dans une queue pour les Blancs, mais en tant que femme noire, qu'il essaie de laisser passer aussi un Africain. Donc, pour elle voit cet événement comme un exemple de sa solidarité avec les Africains. Mais c'est une solidarité, à mon avis, qui a aussi ses limites. Parce qu'à aucun moment, l'Africain ne parle dans son récit, dans le témoignage d'Eslanda Robson. On ne sait pas comment lui, il a vécu cela. Et aussi, au final, elle n'a pas choisi d'être dans la queue des Africains, mais dans la queue de Blancs. Ouais. Donc on voit quand même à quel point c'est compliqué, en fait, pour une femme africaine-américaine qui se voit en tant que noire, de naviguer un peu l'espace ségrégué de la colonie en Afrique.
Mais ces critiques contre justement cet espace ségrégué et puis aussi toute l'architecture coloniale ou la domination raciale aux États-Unis, comment elle va porter la critique et comment elle se sera reçue? Parce qu'avant même ses connexions avec l'Afrique, son militantisme prend source d'abord dans le territoire américain. Comment cela va-t-il être perçu? Est-ce qu'il y avait un risque à mener ce combat à l'époque?
Il y avait absolument un risque pour elle et je pense qu'elle en a payé très cher d'ailleurs parce que donc Eslanda Robson est... Alors pour elle, elle a beaucoup voyagé en fait, mais à chaque fois, elle contribuait à des reportages, donc des témoignages de ses voyages dans des revues américaines. Donc elle a publié plusieurs textes, par exemple, dans la revue New World Review, qui était une revue de gauche, où elle racontait non seulement ce qu'elle voyait durant ses voyages, mais aussi elle parlait de la ségrégation aux États-Unis. États-Unis, parce qu'elle, elle refusait en fait d'être la porte-parole du gouvernement africain, d'être dans une minorité de personnages noirs qui sont choisis pour être intégrés dans le gouvernement ou dans l'administration ou dans l'armée, par exemple, pour montrer que voilà, on a dépassé ces questions de racisme aux États-Unis. Pour elle, elle a dit que ce serait de blanchir un mur très sale, ce sont ses propres mots. Et donc pour elle, c'était vraiment de parler de la réalité de la ségrégation aux États-Unis.
Dans les années 30, Eslanda Robson entreprend avec son fils de 8 ans un voyage en Afrique. Elle sillonne pendant plusieurs mois les pays comme le Kenya, le Congo belge, Zanzibar, entre autres. Ce voyage est l'occasion d'une véritable anthropologie. Il a en effet des vertus initiatiques, de reconnexion avec la terre des ancêtres. Et ce périple est couronné par un livre, Voyage africain, publié en 1945 et qui lui a définitivement taillé ses galons de militante pour la libération des femmes. Je voudrais qu'on prenne le temps de parler de ce livre-là, de son importance. Que découvre-t-elle dans ce continent qu'elle parcourt et comment cela fait-il naître une vocation chez elle?
C'est vrai que c'est une histoire vraiment intéressante de retrouver une femme noire anthropologue en Afrique. Donc là, en fait, elle a ce regard anthropologique, mais il ne s'agit pas de l'anthropologie classique de l'anthropologue européen blanc qui arrive en Afrique pour étudier l'autre. Parce que pour Eslanda Robson, les Africains n'étaient pas l'autre. C'était aussi, elle parle de découvrir son vieux pays, entre guillemets. Donc pour elle, c'était aussi ce retour vers ses racines. Donc voilà, elle a vraiment, elle a deux objectifs en fait avec ce voyage. C'était d'abord de renouer ses liens avec l'Afrique, mais c'était aussi pour étudier et documenter la vie des Africains pour par la suite revenir aux États-Unis et en Europe avec des arguments pour contrer le discours impérialiste de l'infériorité de l'Africain, de l'infériorité du Noir. Donc c'était en fait les deux objectifs pour elle dans ce voyage.
Mais que découvre-t-elle de façon matérielle? Parce qu'on imagine un peu la scène de cette femme avec un enfant aussi jeune dans ces territoires qu'elle ne connaît pas nécessairement. Quelles sont les valeurs qu'elle va découvrir et qui vont servir justement son combat contre l'infériorisation des Noirs? Qu'est-ce qu'elle récolte véritablement sur la terre africaine?
Alors, elle va retrouver vraiment des signes de vie, on va dire, de la civilisation. Ce qu'elle avait toujours appris dans ses études n'existait pas en Afrique, soi-disant. Elle retrouve vraiment la civilisation. Donc, elle s'intéresse à la langue. Elle prend donc dans son récit Voyage africain, il y a plusieurs photographies, par exemple, des objets d'art qu'elle voit, qu'elle retrouve. Elle parle beaucoup avec des femmes pour comprendre aussi le rôle des femmes. Elle parle des rituels, de la formation de la communauté en Afrique. Donc pour elle, elle retrouve vraiment qu'il existe vraiment toute une civilisation là où on lui avait dit qu'il n'y avait que des sauvages, pour parler de manière très franche. Oui.
Alors, Eslanda Robson va justement porter ce combat très, très critique. Vous l'avez évoqué, elle refusait d'être une faire-valoir d'une certaine manière ou de voir certaines figures qui sont promues et qui aident d'une certaine manière l'entreprise aussi coloniale. Elle va porter des critiques contre la négritude. La négritude de Léon Contran Damas, d'Aimé Césaire, de Léopold Sédar Senghor et même aussi des sœurs Nardal, d'une certaine manière, qui ont été aussi des inspiratrices de ce projet. Comment va-t-elle formuler ces critiques et la notion de primitif, en quelque sorte, qu'elle a beaucoup contesté dans son livre?
Oui, donc en fait, dans le mouvement de la négritude, on retrouve beaucoup la revendication ou la valorisation du primitivisme africain. C'est-à-dire que dans la négritude, on accepte la prémisse en fait que l'Africain est primitif, mais on essaie de valoriser ce primitivisme. Eslanda Robson refuse en fait cette prémisse du primitivisme. Pour elle, comme j'ai dit, il s'agit d'une civilisation assez avancée qui n'est pas du tout primitif. Et donc la base même des idées de la négritude, c'est ce qu'elle va refuser, ce qu'elle va critiquer.
Avec une contradiction cependant, parce qu'elle a une fascination pour la figure de Félix Eboué, dont on a parlé tout à l'heure, homme politique français très en vue à l'époque, résistant, gaulliste, qui a occupé de très très grandes fonctions. Comment expliquer cette contradiction ? D'un côté, elle critique la négritude pour ce primitivisme ou ce caractère un peu primitif, cette exotisation que la négritude reprend à son compte. Et elle a cet amour pour Félix. Comment vous l'expliquez ?
Ce n'est pas une contradiction qu'on peut réconcilier. Ce n'est pas facile d'être une femme noire anthropologue, parce que justement l'anthropologie même porte ses contradictions. Mais je pense que ce que Félix Eboué représente pour elle, en fait, c'était la possibilité de renverser encore une fois le discours colonial. C'est-à-dire que pour elle, en fait, elle écrit que c'était durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la période où c'était l'Europe qui se retrouvait vraiment en difficulté. Et c'est Félix Eboué qui va se montrer comme l'exemple, en fait, de la liberté, de la libération. Et c'est pour ça qu'elle trouve ce figure vraiment fascinant. Mais c'est vrai qu'il y a une contradiction dans sa pensée qu'on n'arrive pas à réconcilier, justement parce que ce regard anthropologique portera toujours des contradictions.
On a évoqué en première partie l'émission Jeanne Vial et ses réseaux, ses soutiens. Est-ce que Eslanda Robson, à part l'Afrique où elle va faire ce voyage initiatique, va faire un voyage par exemple en Europe ou dans d'autres pays, est-ce qu'elle aura aussi des soutiens ? Est-ce qu'elle va intégrer, on va dire, des réseaux féministes connus ?
Oui, alors Eslanda Robson a écrit des articles par exemple sur les femmes dans l'ONU. Donc c'est quelqu'un qui a voyagé beaucoup en Afrique mais aussi en Europe. Et en Amérique du Sud aussi, pour vraiment documenter. Donc, elle était toujours dans cette logique de documentation, en fait, pour documenter le rôle que jouent les femmes dans ces communautés et dans le monde public et dans la politique. Et donc, voilà, elle va voyager beaucoup pour essayer de trouver des exemples des femmes qui sont vraiment en avance sur le temps, si on peut le dire ainsi. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, en fait, pour, encore une fois, pour avoir les arguments contre non seulement le racisme, mais aussi le sexisme, au final, qui dit que les femmes ne sont pas capables de jouer certains rôles dans la société.
Afrique, mémoire d'un continent.
Afrique, mémoire d'un continent, reçoit aujourd'hui Annette Joseph-Gabriel, universitaire américaine à Duke, en Caroline du Nord, aux États-Unis, autrice de portraits de femmes noires remarquables du XXe siècle dans son livre qui s'intitule « Imaginer la libération » aux éditions Rodebeau Creek. Nous parlons avec elle de la vie de Eslanda Robson, militante anticoloniale américaine. Annette Joseph-Gabriel, on l'a vu, vous l'avez évoqué, cette trajectoire-là. Eslanda Robson porte aussi des critiques qui vont en direction du système américain à l'époque et de ce qu'elle appelle les petits acomptes de la démocratie sur les discriminations positives contre lesquelles elle s'élève. On parlerait aux États-Unis d'affirmative action. Comment, justement, formule-t-elle cette critique-là et puis de quoi s'agissait-il ?
Alors, elle formule cette critique, en fait, pour justement critiquer le gouvernement américain pour avoir, en fait, essayé d'intégrer un petit nombre de Noirs dans le service public pour se dire, pour se vanter, en fait, d'avoir résolu le problème de racisme sans pour autant vraiment s'attaquer aux racines du problème qui est la suprématie blanche aux États-Unis. Et donc, c'est ça que j'avais évoqué tout à l'heure quand je dis qu'elle décrit cela comme blanchir un mur très sale. C'est justement de ne pas parler de la vérité, de la réalité. J'ai aussi dit que c'est quelque chose qui aura quand même des répercussions très difficiles pour elle. Et donc, par exemple, durant la période de McCarthyism, qui est cette chasse aux sorcières, on va dire, contre les communistes aux États-Unis aux années 50, Eslanda et Paul Robeson vont devoir aussi passer devant ce communauté McCarthyiste. Et elle refuse, en fait, de répondre à la question si elle est communiste ou pas. Et pour cela, elle va perdre son passeport américain. Donc, on parle de la citoyenneté, comment combattre le système depuis l'intérieur. Mais pour elle, elle était sans État, carrément sans pays, sans nationalité, pendant au moins 8 ans. Et c'était très, très difficile pour elle.
Le combat de sa vie reste tout de même l'articulation de la lutte contre l'impérialisme colonial, comme elle l'appelle, mais également la mise sur pied d'un transnationalisme féministe. Cela veut dire, si on traduit un peu, une union des peuples dominés et surtout une union des femmes. On y voit d'ailleurs la naissance de ce concept de Sud global. Pouvez-vous revenir sur ce pan important de sa vie et surtout le sens qu'elle donne à son féminisme, Annette Joseph Gabriel?
Son féminisme, en fait, sera basé vraiment sur la solidarité comme mantra, la solidarité à travers les frontières. Parce que les frontières nationales ne voulaient rien dire pour une femme qui a voyagé dans 40 pays du monde. Pour elle, son féminisme était vraiment basé sur cette solidarité entre les femmes qui luttaient contre, au final, le même problème. La suprématie blanche, le racisme n'était pas un problème national. Et donc, pour Sandra Robson, la solution n'allait pas venir non plus des actions nationales, mais vraiment d'une lutte transnationale. Et c'est ça sa vision transnationale, en fait, de féminisme. C'est quelqu'un qui a côtoyé, en fait, plusieurs femmes, y compris Jeanne Vial, y compris Eugénie Ebouetel, pour essayer, y compris Paulette Nardal, donc vraiment du monde francophone, de l'Asie, de l'Afrique, de vraiment partout, pour essayer de construire, de bâtir vraiment une vision du monde qui était à l'image des femmes de partout, en fait.
Et si on essaie de la situer dans la galaxie de plusieurs écoles de féministes qui existent aujourd'hui, parce qu'il y a les afroféministes, il y a le féminisme universaliste, et puis il y a le féminisme aussi très, très ancien. Vous l'avez évoqué, Paulette Nardal, Jeanne Vial, on peut parler aussi d'Awa Keïta. Aujourd'hui, son héritage l'inscrirait dans quel type de féminisme aujourd'hui?
Alors, son héritage, c'est un féminisme à sa sauce, je dirais, parce qu'à cette époque, il y avait bien sûr des limites dans sa relation avec son mari, Paul Robeson, par exemple, d'être la femme d'un homme très célèbre et très connu, venait avec ses propres difficultés. On voit, par exemple, comme vous avez très bien évoqué tout à l'heure, qu'elle a dû entreprendre ce voyage en Afrique avec son fils, par exemple, parce que c'est elle, en fait, qui prend soin de son fils, c'est elle qui joue ce rôle maternel. Donc elle voyait, il y avait quand même des limites, mais elle articulait, elle exprimait aussi ses rôles un peu traditionnels féminines comme aussi les bases de l'action publique des femmes. Elle a dit, puisque les femmes savent gérer le budget du foyer, ben pourquoi pas ne pas être ministre de finances aussi pour gérer le budget du pays. Donc pour elle, ce n'était pas vraiment des limites. Je pense que c'est un féminisme un peu à sa sauce, mais qui porte toujours des leçons pour nous aujourd'hui.
Oui, nous faisons cette émission le 9 mars. Une date importante, c'est le 8 mars, journée pour la lutte pour le droit des femmes. Qui sont les héritières, par exemple, des combats qu'ont menés Jeanne Vial, Paulette Nardal, Suzanne Césaire et Eslanda Robson? Qui sont les héritières aujourd'hui?
Nous sommes tous les héritières de ces femmes, honnêtement, si on le revendique ou pas, parce que ce sont des femmes qui ont vécu dans un monde qui n'existait pas encore. Ce sont des femmes qui ont osé se présenter pour des élections à l'époque où il n'y avait pas des femmes dans la politique, par exemple dans le monde politique, ou très peu de femmes. Et donc je pense qu'on est tous des héritières de leurs actions, et c'est à nous de reconnaître notre héritage.
Leurs écrits sont les traces de futurs radicaux qu'elles imaginèrent et des écueils qu'elles n'ont pas su éviter. Ils sont aujourd'hui une feuille de route vers cet avenir qui reste à venir, tant l'étincelle de leur citoyenneté décoloniale dans l'Empire français éclaire notre chemin vers la décolonisation du monde. Voilà ce qu'écrit Annette Joseph Gabriel dans l'épilogue de son livre « Un appel à rester éveillé » à ne pas subir cette éclipse qui jette l'ombre sur une histoire africaine qu'il est temps de se réapproprier. C'est la fin d'Afrique, mémoire d'un continent. Vous retrouverez l'émission en podcast sur RFI.fr et sur l'application RFI Pure Radio. Merci à toute l'équipe, Delphine Michaud à la coordination, Taguim Fratahoré à la réalisation. La semaine prochaine, aux commandes à ce micro, Penaï Traoré.